Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Deuxième partie de La rencontre avec la traversée de Florence Mial. Analyse des séquences d'ouverture et de fermeture du film. Comme je l'ai déjà dit, le film s'ouvre en trompe-l'œil. La caméra se déplace en panneau de gauche à droite dans un atelier d'artiste qui mélange peinture en trompe-l'œil et vidéo, tandis que nous lisons le titre, La traversée, et que nous entendons la voix de la peintre qui annonce un récit autobiographique.
Toute ma vie, j'ai dessiné.
Tandis que la voix de l'autrice annonce un genre autobiographique, le texte à l'image annonce la fiction. Scénario de Marie Depléchin et Florence Mial. Puis, l'auteur de la musique qu'on entend est précisé, Philippe E. Kumpel. Alors que l'image s'est portée vers une fenêtre visiblement peinte, où vole pour la première fois une pie vers une campagne luxuriante. La caméra se baisse lentement vers une table de travail et un carnet bleu fermé. Les mains épaisses, vieilles, d'une personne qui travaille avec ses mains, se saisissent du carnet et l'ouvrent. On entend le bruit du papier et des pages qui tournent en même temps que la musique et encore la voix autobiographique qui s'adresse au spectateur.
Regarde. C'est chez moi quand j'étais petite. C'est mon village, Novi Varna. Les gens n'avaient pas grand-chose. La vérité, c'est qu'on n'avait rien. On bricolait. Mais j'avais une maison, une famille. J'étais heureuse. Regarde là. C'est maman avec ma petite sœur. Papa. Les jumeaux. Là, j'ai 13 ans. Adrielle a 12 ans.
On note que certains personnages crayonnés sont plus nets que d'autres, en particulier les personnages principaux. La mère et le père sont nets, tandis que certains de leurs enfants sont tout juste crayonnés comme flous, déjà effacés. Ils vont tous disparaître, mais les fantômes des parents vont continuer d'accompagner les deux personnages principaux, c'est-à-dire la narratrice adulte, Kiona, et Adriel, son jeune frère.
Le village n'existe plus. Les gens ont fui, beaucoup sont morts. Lui. Et elle. Et eux aussi, avec tous leurs enfants.
Et tandis que la main efface les dessins au crayon en noir et blanc, le film bascule vers le conte.
C'est cet été-là qu'on est parti. C'était un bel été.
Et entre dans la forêt. Avant le départ, quand les deux personnages principaux fuguent un matin et assistent de loin à la destruction de leur village que dessine Kiona sous l'œil attentif et joueur de la pie. Le carnet et la pie vont accompagner Kiona tout au long de la traversée du film et du conte. Le carnet est l'objet transitionnel, celui qui va aider la jeune fille à grandir sans père, mais avec son père.
C'est papa qui m'a offert mon premier carnet.
Le livre est ici objet de mémoire, de compréhension, de sens, de transmission et de création. Il est aussi un objet de consolation, de mise à distance du réel pour le magnifier, y mettre de la couleur et de la chaleur, y compris dans les mauvais souvenirs, donner du sens à ce qui n'en a pas. À plusieurs reprises, la voix de la narratrice interrompra le récit. La première fois qu'on entendra à nouveau sa voix, ce sera au moment de la destruction du village de l'enfance heureuse, quand tout devient sombre pour la première fois.
Leur seule raison, c'était la haine. Il leur fallait un ennemi à tout prix. Et l'ennemi, c'était nous.
La pie, oiseau souvent méprisé parce que voleuse, sera aussi un personnage qui accompagnera la jeune fille et le récit. Par sa liberté de mouvement, elle vole, elle va où elle veut, et de gestes, elle vole et elle rend les objets à la jeune fille. Elle représente aussi une féminité libre et qui transgresse les règles. Elle décide de sa vie et l'écrit, la peint elle-même.
Toute ma vie, j'ai dessiné.
Dans la séquence de fermeture, le carnet se referme après le passage de la porte d'une maison en ruine. On connaît la symbolique des portes qui représentent le passage d'un monde à l'autre. D'un côté, c'est l'enfer des hommes, la déportation qu'ils ont subie et à laquelle ils échappent, qui a dévasté le paysage et retire toute trace de vie autre que la boue. Et de l'autre côté de la porte en ruine, c'est une nature luxuriante.
« C'est beau, Kimna, c'est beau !»
dit l'enfant noir, chauve, qu'elle a sauvé. La pie réapparaît, on l'entend avant de la voir, et Kiona dit devant le ciel redevenu bleu avec des nuages blancs.
« Tiens, t'es là, toi.
Maintenant, c'est tout droit. »
dit Adriel, le petit frère, qui sait que la route est finie et qu'ils ne sont plus perdus. Et ils courent dans leurs habits verts de bagnard qui se confondent avec la nature verte luxuriante, qui les absorbe dans l'image tandis qu'ils reparaissent, en point, sur un long chemin jaune vu du ciel. Alors la voix de la narratrice reprend.
La fuite avait englouti notre enfance et avec elle toute notre vie d'avant. Je ne savais pas ce qui nous attendait de l'autre côté. Mais Adriel et Isawa étaient avec moi. Et nous avions passé la dernière frontière.
L'image se métamorphose alors en carnet et les pages sont tournées de manière à revenir en arrière. La voix reprend alors une dernière fois.
Pourtant, tout ce que je faisais en courant, c'était de pleurer. Et je ne savais même plus sur quoi. Erdewan, Iskander, mes parents, mes jumeaux, ma petite sœur. Et tous ces gens que j'avais aimés et que j'avais laissés derrière moi.
Les pages du carnet continuent de retourner vers l'origine, l'enfance de la narratrice.
Toute ma vie, j'ai espéré qu'ils sonneraient un jour à ma porte. Que je les croiserais par hasard sur une route, dans la rue. Que je recevrais par la poste un courrier. On ne sait pas ces choses-là, n'est-ce pas ? On ne sait pas.
Le carnet bleu est refermé, alors par la main, un fondu au noir annonce le générique de fin. On comprend alors malheureusement que le jeu de la narratrice est universel et le spectateur pense à ses propres disparus, ses propres fantômes qui l'accompagnent, ceux dont il espère encore les croiser au hasard des rues et des voies. Le carnet peut se rouvrir à tout moment grâce au film et la question sans réponse à la violence inextinguible des hommes reviendra. Celle que rapporte Mascolo à propos de Robert Antelme, déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'enfer, il était chez les hommes. C'est même cela qui leur a rapporté de l'enfer. Il s'agit donc ici, à travers un récit onirique, de dénoncer une tragédie créée par les hommes et qui se renouvelle sans cesse, sans vraiment changer de forme.
C'est parce qu'on a volé les cerises. C'est ça ? C'est les cerises ?
Mais non, dis pas de bêtises.
On trouvera ce genre de récit dans Histoire d'une vie d'Aaron Appelfeld. J'avais 7 ans lorsqu'éclata la Seconde Guerre mondiale. L'ordre temporel s'en trouva bouleversé. Il n'y eut plus d'été ni d'hiver, plus de longs séjours chez les grands-parents à la campagne. Notre vie fut comprimée dans une pièce étroite. Nous restâmes un temps dans le ghetto et à la fin de l'automne, nous fûmes déportés. Nous passâmes des semaines sur les routes pour arriver finalement au camp. De l'évasion, je parlerai en temps voulu. Durant la guerre, je ne fus pas moi. Je ressemblais à un petit animal qui possède un terrier. Ou plus exactement plusieurs terriers. Les pensées et les sentiments avaient rétréci. En vérité, une interrogation douloureuse s'élevait parfois en moi. Pourquoi ? Et à quelle fin étais-je restée seule ? on pense aussi à l'image manquante de Christophe Bataille et Riti Pan, dont la phrase « L'ennemi, c'est moi, j'ai 13 ans » vient résonner avec le conte de la traversée.
Ils tombaient sur nos villages pour les ravager. Leur seule raison, c'était la haine. Il leur fallait un ennemi à tout prix. Et l'ennemi, c'était nous.
On n'a rien trouvé, chef.
C'est toujours la même scandaleuse et honteuse histoire pour l'humanité.
Toute ma vie, j'ai espéré qu'il sonnerait un jour à ma porte.
C'était la deuxième partie de la rencontre avec La traversée de Florence Mial.